Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, quel plaisir. Dans cette émission, nous allons parler d'amour et en bonne compagnie, non seulement en compagnie d'Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis le 11 décembre 1996, qui nous convie à un voyage pour le moins original et très personnel, avec un essai intitulé « Cinq personnages en quête d'amour » sous-titré « Amour et religion » paru aux éditions De Fallois, mais aussi en compagnie justement des fameux personnages évoqués dans ce livre, le nomade Ulysse, le roi musicien David, l'interdit mais si beau Tristan, la Julie, non pas celle de la guirlande, mais l'héroïne de Rousseau, la nouvelle Héloïse, et vous nous direz sûrement un mot, monsieur Besançon, de la toute première, celle d'Abélard, et enfin Frédéric, le Frédéric de Flaubert dans l'éducation sentimentale. Alors, Alain Besançon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est un plaisir pour moi et un honneur, madame.
Vous n'avez pas voulu faire une galerie de portraits, je le dis tout de suite. Vous dites vous-même que vous n'avez pas non plus voulu faire une étude, mais plutôt une promenade littéraire.
Écoutez, sur un sujet comme l'amour, il ne faut pas trop s'apesantir, hein, surtout quand on a mon âge. Et c'est un sujet qu'on n'épuise pas, de toute façon.
Bon,
donc,
ce
n'est pas la peine d'ajouter des bibliographies et de compliquer les choses.
Néanmoins, vous avez un regard très personnel sur les différents personnages que j'ai cités. Alors, par exemple, dans Ulysse, bien sûr, il y a son côté très viril et voyageur, mais vous, vous insistez plutôt sur ses rencontres avec les femmes.
Vous savez, toutes les grandes épopées roulent sur l'aventure et l'amour. Hein. Alors, j'ai fait abstraction de l'aventure, c'est-à-dire toutes les histoires avec Polyphème, les combats, le massacre des prétendants, etc. Et j'ai considéré, c'est arbitraire, mais c'est un choix, l'Odyssée comme un passage d'Ulysse devant des femmes. Alors bon, il y a des femmes un peu monstrueuses, comme Charybde, qui est divine, mais des femmes du genre féminin, et Scylla, qui lui ôte ses pires marins, enfin c'est des femmes monstrueuses. Et puis des déesses au contraire qui sont très attirantes, Circé qui est presque un personnage romanesque, et Calypso qui est une sorte de maîtresse au long cours, qui lui fait une vie très confortable. Mais Ulysse finalement ne se plaît pas avec les déesses et il veut retourner chez lui, à Ithaque, où l'attend sa femme, qui a quand même pris 20 ans depuis le début de la guerre de Troie, depuis le départ d'Ithaque. Et c'est ça qu'il veut revenir, mais quitte même à refuser l'immortalité et la jeunesse éternelle que lui propose Calypso.
Ça veut dire pour vous que l'amour conjugal est au fond plus fort d'une certaine façon ?
C'est pas qu'il est plus fort, mais en tout cas, c'est le seul qui soit vraiment cité en exemple dans l'Odyssée. Finalement, on aboutit à l'amour conjugal. Un amour conjugal, d'ailleurs, qui n'est pas toujours très drôle. Vous savez que La Rochefoucauld, je crois, a dit il y a de bons mariages, il n'y en a pas de délicieux. Eh bien, au retour d'Ithaque,
Pénélope
le fait marner, Ulysse, le fait marner pendant un certain temps. Et Ulysse, bon, ils se retrouvent, ils se passent la première nuit d'ailleurs, non pas à coucher l'un avec l'autre, mais à se raconter leur malheur, à pleurer, à se parler. Parce que Homère pense que, comme il faut penser d'ailleurs, que dans les couples vraiment mariés, c'est la parole qui compte et l'échange de paroles. Et puis, Ulysse s'en va. Ulysse s'en va parce que Tirésias lui a dit qu'il fallait partir. Et il le dit d'ailleurs tout de suite à Pénélope, il la frustre aussi à son tour. Il s'en va, comme à la fin de la chanson de Roland, quand Charlemagne a fini son travail, qu'il a vaincu les Sarrasins, qu'il a vengé Roland, qu'il a écartelé Ganelon. Eh bien, un ange, dans son sommeil, vient lui dire « il faut repartir, il faut repartir ». Et ça, c'est une chose que je retrouve même dans l'Évangile, quand le Christ dit aux apôtres « si je ne pars pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit, je vous l'aurai après mon départ ». Et puis, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est à eux de partir. Il y a ce thème du départ. Et puis un autre thème que je retrouve beaucoup dans le roman, c'est le thème de la caverne, la visite chez les morts qu'on va retrouver.
Oui, la descente aux enfers.
La descente aux enfers, qui est à mon avis une métaphore de l'âme, une métaphore de la vie intérieure. Et nous allons le retrouver tout au long des personnages que j'évoque.
Oui, en effet, vous nous présentez une Pénélope. Au fond, on la voit toujours larmoyante devant sa tapisserie, mais finalement, vous vous la présentez pleine d'amertume. C'est un autre
elle
regard.
Elle se venge un tout petit peu.
Elle se venge un peu. Tu m'en as
oui,
fait.
Oui, elle se venge un peu, mais voilà. Enfin, juste ce qu'il faut. Parce qu'à la fin, quand même, elle craque quand elle voit qu'Ulysse va se mettre en colère. Et les colères d'Ulysse, ce n'est pas rien.
Alors, on voit avec cet exemple d'Ulysse, et on ne pourra sans doute pas détailler tous les personnages que vous abordez, mais on voit bien que votre regard est très personnel et qu'il est aussi fondé sur presque une littérature comparée, que vous aimez aller vagabonder dans d'autres
oui,
textes que vous avez lus.
C'est toute la littérature qui roule sur l'amour et la religion. Je n'ai pris que quelques jalons. Et le second, je parle d'Aîné, justement, dans la descente chez les morts d'Aîné. Qui est très importante. C'est là aussi qu'il retrouve les puissances de l'âme, la vie intérieure, les dieux, etc. Ça, c'est un thème très important. J'ai failli intituler ce livre « Les cavernes », mais mon éditeur m'a dit que c'était...
Ça avait déjà été peut-être utilisé.
Non, mais c'était pas très gay, que c'était pas très commercial, il faut reconnaître. Mais j'en trouve partout des cavernes. Une que j'ai retrouvée pratiquement en finissant le livre, c'est la très belle caverne de Montesinos, où Don Quichotte descend par une corde et où il voit tout un monde, et en particulier Dulcinée. Et puis il y a Panurge qui descend dans l'estomac de Pantagruel, où il voit aussi tout un monde, en particulier il est accueilli par un paysan qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui dit Panurge « Je plante mes choux !» dit le paysan comme si de rien n'était, etc. J'en trouve partout.
Et bien sûr, aussi la descente de Dante que vous évoquez
alors,
aussi dans votre livre.
La descente de Dante, j'évoque même parce que c'est un type différent, la descente que propose Jules Verne dans « Le voyage au centre de la Terre ». Pourquoi ?
Alors,
parce que
oui.
c'est une descente où il ne rencontre pas les dieux. C'est une descente de sciences naturelles. Nous sommes dans un monde sécularisé déjà. Et justement, ce n'est pas une initiation comme chez Aîné ou comme chez Ulysse ou comme chez Don Quichotte. Non.
On est au positivisme.
Nous sommes dans le positivisme et le professeur Lidenbrock émerge d'une aventure invraisemblable, aussi maniaque et aussi absurde qu'il n'est descendu dans le cratère du Sneffels.
Et vous nous en profitez pour nous raconter aussi comment vous, quand vous étiez enfant, vous avez abordé cette littérature.
Je lis ça beaucoup plus que Dante,
voilà,
évidemment.
Et vous en profitez au passage pour régler un petit compte à Freud.
Freud aussi, c'est une descente d'une certaine façon, mais c'est une descente dans l'inconscient, c'est-à-dire une descente dans laquelle on ne trouve pas autre chose que soi-même. Hein, et ça, c'est tout à fait différent des autres grandes descentes initiatiques dont je parle. Parce que dans les grandes descentes initiatiques, on voit, et Augustin, là, il dit ce qu'il y a dans la caverne, ou ce qu'on peut trouver dans la caverne. On peut y trouver Dieu, ce qu'il a, le maître intérieur, comme dit saint Augustin, n'est-ce pas ? Intimior, intimum meo, plus intime que moine. Non, Freud, on ne trouve que des histoires de soi-même, des histoires enterrées, refoulées, etc.
Embouteillage interne, dites-vous.
Des embouteillages internes,
qu'on espère de bien embouteiller. Et névrose.
Et puis finalement, la psychanalyse devient elle-même, sa propre névrose, comme chacun sait.
Voilà, c'est ça. Au fond, vous dites que c'est l'attrait d'une doctrine qui est un leurre, qui est de promettre une connaissance intime de soi, mais finalement, on n'y arrive pas vraiment. Mais on se complaît dans cette connaissance
On se complaît, c'est une sorte de film, n'est-ce pas, qu'on se déroule à soi-même et il n'y a jamais le mot fin. Alors là, c'est un peu plus embêtant. C'est quand on n'a pas compris qu'on ne saurait jamais ce qu'il y a en soi, on risque d'être enfermé à vie dans la psychanalyse. J'ai connu des cas dans ma génération.
Est-ce qu'à votre avis, chacun des personnages, Ulysse, David, Tristan, Julie, Frédéric, ces cinq personnages, est-ce qu'ils nous apprennent chacun quelque chose sur l'amour, mais de quel type d'amour parlons-nous ?
La rupture, c'est David. Parce que David, disons, désire Bethsabée exactement comme Ulysse ou n'importe quel auteur ancien désire. Hein. Mais il a commis quelque chose de plus, il a commis un péché dont il peut prendre conscience grâce au prophète. Et ce péché lui donne justement un rapport avec Dieu que n'ont pas les autres. Les autres, disons, ils subissent les dieux. Mais David rencontre Dieu. Et ça, c'est une révolution énorme parce que
ça
ouvre.
Que ça donne un élargissement de l'âme.
Ça donne un énorme élargissement de l'âme qui, confronté à son péché, à sa possibilité de pardon, à la réconciliation avec le Créateur, là nous entrons dans un autre monde, dans un nouveau régime de l'amour qui sera également le régime, là c'est dans la Bible juive, mais ça sera aussi le régime chrétien quand les privilèges du peuple élu seront étendus au peuple gentil.
Donc c'est bienheureuse faute, c'est toujours bienheureuse faute, puisqu'elle nous permet le repentir et donc de retrouver l'amour.
Mais oui, etiam peccata, comme je disais, même les péchés sont des bénédictions. Saint Augustin.
Vous êtes beaucoup intéressé à Saint Augustin. Bah, c'est vous lui en qui a parlé dans ce livre.
Bah oui, parce que c'est lui qui donne une doctrine, qui donne la première grande doctrine de l'amour.
Mais c'est une doctrine qui refuse d'une certaine façon la chair. Non,
pas du tout. Saint Augustin est pour le mariage, contrairement aux gnostiques contemporains, il dit qu'il est bon, mais que la passion, en fait, c'est ça que ça, la passion sexuelle est une chose permanente dans l'homme. Parce que pour les anciens, c'était une chose qui passait avec l'âge, n'est-ce pas ? Cicéron disait « Enfin, je suis débarrassé » quand il écrit de la vieillesse. Il me dit « Je suis débarrassé de ces choses-là ». En fait, c'est tout qu'il a écrit ce livre. Bon, il a eu l'occasion d'épouser sa petite nièce qui avait quelque chose comme 18 ans. Lui, donc il n'était pas tellement en bas.
Mais ça restait
Augustin,
en famille.
Augustin cite un homme de 84 ans, n'est-ce pas, qui achète finalement pour ses plaisirs une jeune joueuse de lyre, alors qu'il vivait chastement avec sa femme depuis 25 ans. Donc c'est une idée d'une femme d'un chiasme qui accompagne l'homme d'un bout à l'autre de sa vie. Et là, d'ailleurs, il est d'accord avec Freud. Là, d'une certaine façon, c'est là que Freud n'est pas absurde. Il a trouvé des choses, il a senti des choses. Il s'habille dans un contexte scientisé, mais il a senti des choses.
Alors, vous dites que dans le monde, et vous revenez plusieurs fois sur cette idée, dans le monde grec et latin, la faute est rejetée sur les dieux.
Mais oui.
Or, dans le récit biblique, elle ne peut pas être rejetée sur Dieu, d'où une extraordinaire différence de résonance. On ne peut pas aimer les dieux de la Grèce, alors qu'on peut aimer le dieu biblique.
Ben, les dieux de la Grèce sont comme les plantes ou comme les animaux, c'est une espèce biologique plus puissante, ils sont immortels, ils sont plus puissants que les hommes, et ils vous envoient les passions. C'est pour ça que Hélène, qui a quand même provoqué...
Ah oui, la belle Hélène, vous en avez parlé,
bah,
bien
elle
sûr.
Elle a quand même provoqué une catastrophe.
Mais elle dit que ce n'est pas de sa faute, d'après
elle
vous.
Elle dit que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'y est pour rien, c'est les dieux qui ont tout fait. Et c'est ce que David ne peut pas dire. Il ne peut pas dire, c'est Dieu qui m'a envoyé...
Au fond, la conscience de la responsabilité est donnée par la religion biblique.
Et alors, ça va devenir un tourment qui va travailler le monde chrétien. Alors, vous avez évidemment, dans les amours modernes, j'ai dit modernes, d'après l'Antiquité, cette envie qu'ont les hommes de rester à l'amour antique, au partenariat bilatéral avec et d'expulser ce Dieu si encombrant qui va s'interposer entière entre les amants. Et ça, nous voyons ça d'un bout à l'autre de la littérature. J'ai cité Stendhal. Ben dans la tour farnèse, Clélia, dont Fabrice est amoureux, prononce un vœu de ne pas voir, de ne plus voir dans une certaine circonstance, de ne plus voir Fabrice. Alors elle ferme les yeux dans l'amour. Mais alors c'est un vœu qui paraît une absurdité. Mais ce vœu, les amants vont le mettre à profit pour faire de ce vœu, de cette interdiction, de cet obstacle, un multiplicateur de l'amour.
Du désir, enfin, en tout cas, oui.
Ou de l'amour.
De l'amour, oui.
De l'amour, tout simplement. Et ils en meurent, d'ailleurs, au bout d'un certain temps. Mais pourtant, c'est un roman assez joyeux.
Aussi, vous parlez volontiers de cette nouvelle Héloïse, donc la Julie de Rousseau.
Mais oui, parce que Rousseau a...
Qu'est-ce qu'il introduit de nouveau ?
Ben écoutez, Héloïse, c'est un cas tragique, et Rousseau a donné ce titre bizarrement à son livre alors qu'il l'avait fini, la nouvelle Héloïse. Alors, tout le monde connaît l'histoire d'Héloïse et Abélard, et Abélard, qui a 40 ans, tombe amoureux d'Héloïse, qui lui rend cet amour de façon extrême. Héloïse est une grande amoureuse, elle ne veut être que ça, elle a 18 ans, elle a un enfant, très heureux, etc. Et malheureusement, la liaison se sait, bon scandale. Il était quand même le directeur des écoles cathédrales de Paris, il était célèbre en toute l'Europe. Elle, c'était une jeune fille extrêmement intelligente et extrêmement cultivée. Alors il va lui donner deux ordres. Le premier, c'est de se marier. Et alors ça va aboutir à la catastrophe parce que l'oncle va se venger, va faire l'épouvantable attentat que tout le monde connaît. Et Héloïse n'a pas envie parce qu'elle ne veut pas qu'Abélard se déshonore en se mariant. Un grand professeur de théologie, un grand philosophe, doit être célibataire, elle lui propose d'être sa putain, tout simplement, méritrix, comme il dit, c'est le mot putain, tout simplement. Mais non, Abélard veut qu'est-ce qu'on se marie, catastrophe. La deuxième chose bizarre, c'est qu'Abélard lui ordonne d'entrer en légion. Elle n'a pas envie du tout.
De prendre le voile.
Or, elle prend le voile uniquement par amour d'Abélard, pour obéir à Abélard, sans la moindre vocation religieuse, et en récitant au moment de prendre le voile des vers de Lucain, dans lequel elle dit, somme, qu'elle est une femme indigne, comme la Camille, je crois, du poème de Lucain. Bon, puis après ça, elle est, alors qu'Abélard rate tout dans sa vie, il est lamentable dans toutes ses tentatives, elle réussit magnifiquement, elle tient son couvent de façon absolument impeccable. Et à la fin, quand Abélard est mort depuis 20 ans, eh bien, elle fait ramener son corps et elle se fait enterrer avec lui. Oui, ils sont encore au Père-Lachaise.
C'est une belle histoire d'amour. Votre livre nous fait
aussi... Tragique parce que c'est très tragique, c'est très mystérieux. Parce que qu'est-ce que peut valoir cette âme qui se soumet à une telle équivoque dans sa vocation? On ne peut pas regarder ça en face. C'est... Alors Julie, oui, Julie de Rousseau, ce n'est pas du tout ça. Je trouve ça assez... Enfin, moi, j'ai une interprétation très dure pour Julie, parce que Julie joue les deux tableaux. Elle joue l'amour, puis elle joue le mariage parfait. Et
oui,
les deux
elle
ensemble.
Elle veut être partout, à tous
et
les fronts.
Elle veut être vertueuse dans tous les cas. Et non seulement elle n'est pas vertueuse, mais elle fait le malheur de tout le monde. C'est pour ça que je trouve qu'elle fait le malheur de son amant, elle fait le malheur de son mari, elle fait le malheur de son ami, elle fait le malheur de sa bonne, elle fait le malheur de tout le monde. Tout le monde autour d'elle. Est... Mais en même temps, elle vit dans une espèce d'extase, parce que tout le monde l'aime, et tout le monde s'agglutine autour de son tombeau, y compris son mari, son amant, etc. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de perversité.
Voilà, c'est le moment de le dire, puisque Rousseau a sorti son Héloïse, justement, je crois, en 1761, donc je crois que ça fait...
61, 67,
c'est cette année, je crois, non, un anniversaire.
Alors, il avait eu une affaire avec une jeune femme, mais pas poussé très loin. C'est un roman immense,
voilà.
La nouvelle Héloïse.
Et puis, alors, vous êtes beaucoup penché sur Flaubert, qui a l'air d'être votre... Sur la religion de Flaubert, notamment, qui fera l'objet d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques, je crois.
Oui, parce que Flaubert, pour la première fois, nous donne justement un exemple d'un roman d'amour. Enfin, ça roule sur l'amour et sur la politique. Gardons que l'amour. Dans laquelle la religion est complètement évacuée.
Ce qui n'est pas son cas habituellement.
Bah, écoutez, les cinq femmes, il y en a six femmes, il y a six femmes dans l'ange. On sait que quand même sous Louis-Philippe, ça se passe sous Louis-Philippe, les femmes étaient pieuses, elles allaient à la messe, elles allaient à confesse, ça indignait Zola, ça indignait les Goncourt, mais enfin c'est un fait. Or, ces six femmes, dans leurs amours de valeur, il y a toutes sortes d'amours, il y a un amour de vanité, un amour de passion, un amour d'intérêt, et il y a même une possibilité de mariage, enfin tout ça, ça rate. Tous les amours ratent complètement, mais aucune de ces femmes n'invoque Dieu, même dans les circonstances les plus graves. Quand Madame Arnoux a son enfant qui va mourir dans la diphtérie, elle pourrait crier vers le ciel. Non, elle n'y pense pas.
Comment vous expliquez cette absence de religion volontaire, manifestement?
Une absence de religion volontaire alors que Flaubert est, et cette absence d'amour aussi, alors que Flaubert est hanté par un grand rêve religieux qu'il a conduit d'un bout à l'autre de sa vie, mais qu'il censure. C'est pas parce qu'il n'a pas son temps à osciller entre, disons, un sentiment religieux qui n'est pas chrétien, mais qui n'est pas non plus... Enfin, disons qu'il est plutôt tourné vers les dionties. Enfin, il y a une grande interrogation de Flaubert. Il fait une grande enquête dans La Tentation de Saint-Antoine, qui est un livre illisible, que personne ne lit, que j'avais mal lu, que j'ai relu, parce que c'est toute l'histoire spirituelle de Flaubert qu'il raconte. Le livre a été très très mal accueilli, mais il y a travaillé toute sa vie. Il l'a publié quand même en 74, je crois, juste avant sa mort. Bon... Il a les amours antiques, quand même, qui sont sous le regard des dieux, de Salammbô et de Mato. Vous avez dans Hérodias, encore, vous avez des belles cavernes. Dans Hérodias et dans Salammbô, il y a des descentes superbes dans des cavernes. Même Amilcar descend dans sa propre maison, mais qui est en forme de caverne, finalement, jusqu'à des choses qui n'ont pas de nom. Qui sont sans prix et qui n'ont pas de nom. Les choses qui n'ont pas de nom. Là, nous sommes tout près de Freud. Freud est presque contemporain, après tout, si on voit les choses d'un peu haut. Et comme Flaubert annonce le mouvement symboliste et que Freud doit énormément au mouvement symboliste, on voit qu'il peut y avoir des connivences. Enfin, des connivences n'ont pas été exploitées. Mais enfin, qui ont été exploitées, si, par d'autres. Voilà. Et finalement, alors, bon... Et ça se termine par un nom, parce qu'il y a une base dans la religion de Flaubert, c'est l'anticléricalisme absolu. Il déteste les curés. Les prêtres antiques, ça peut encore aller, mais les curés, il est le cléricalisme de façon complète, absolue, sans histoire. Mais Dieu, ça c'est plus compliqué, parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit facilement deux textes qui sont quand même d'une interprétation difficile, enfin Saint-Julien l'Hospitalier, qui est une hagiographie sur le mode de la légende dorée, et puis Un cœur simple. Un cœur simple, Ionesco me disait que ce texte avait bouleversé sa vie. Eugène Ionesco qui m'a dit ça. Et ça a été le cas de beaucoup de monde. C'est un texte assez bouleversant qui a eu des postérités en Russie. Vous avez beaucoup de biographies de gens simples comme ça et une certaine sainteté. Alors voilà, ça laisse sur un point d'interrogation.
Et bien sûr, vous évoquez juste d'un mot la Russie, mais aussi l'un de vos auteurs que vous avez beaucoup travaillé, c'est Dostoïevski aussi. Parlez un peu, parce que
oui,
là aussi, vous en dites un mot, mais on sent que vous auriez pu en dire plus.
Dans Dostoïevski, les amours ne sont pas heureux.
Oui, voilà.
Les amours de la grande littérature sont rarement heureux, de toute façon. Mais enfin, ce qui caractérise justement Dostoïevski par rapport à David, il a le sens très fort du péché, comme tout le monde, mais il se complaît là-dedans, il se complaît dans le péché. C'est un péché sans pardon. C'est ce que j'ai appelé une sainteté du péché, ou une sainteté par le péché. Ce qui est assez trouble quand même, ce qui est assez trouble.
Voilà, je crois qu'on découvrira beaucoup d'éléments sur l'amour, la religion, leurs relations réciproques et le regard personnel d'Alain Besançon. Vous nous faites aussi découvrir des auteurs rares, j'en ai découvert un grâce à vous, Héliodore au IIIe siècle avec son œuvre Les Éthiopiques, dont je n'avais jamais entendu parler.
Alors celui-ci, je dis un mot à la fin sur l'époque moderne. Évidemment, je ne connais pas.
Parce qu'aujourd'hui,
je suis un académicien, par conséquent, je ne suis plus un jeune homme. Je ne connais pas très bien ce qui se passe dans la génération des petits enfants. Mais je dis que ce qui se passe, c'est qu'on revient à un mariage pré-antique, c'est-à-dire avant même le rite. Les garçons et les filles couchent ensemble pour trouver entre eux ce qui pourra faire un élément de stabilité. Et je crois que même s'ils n'y pensent pas, je pense que en fait c'est un mariage et que ce mariage a une certaine valeur dans la mesure où c'est quand même on retrouve le socle de la nature et c'est une bonne chose.
Donc c'est un retour.
Oui, mais un retour très loin, avant même les alliances bibliques, les plus anciennes alliances bibliques.
Merci Alain Besançon. Je rappelle que votre ouvrage « Cinq personnages en quête d'amour, amour et religion » donc est publié aux éditions De Fallois. C'est un essai que l'on peut trouver sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Une fiche, puisque vous êtes fiché sur le site asmp.fr et que sur Canal Academy, nous avons la joie d'avoir plusieurs émissions avec vous. Une émission « L'essentiel ». Vous avez parlé avec Jacques Pogam, votre regard sur mai 68 et une séance sur Dostoïevski, justement. Et puis trois émissions sur vos livres, Trois tentations dans l'Église, Le malheur du siècle, communisme, nazisme et Shoah, et votre roman, Émile élémentaire. Vous voyez que vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de venir souvent et nous nous en réjouissons. Merci beaucoup.
Je vois que j'ai été gâté.
Merci à vous.
Merci madame.
À bientôt.